Alors, messieurs, est-ce qu'on est en forme pour ces deux heures de temps? Parce qu'aujourd'hui, messieurs, on fait une émission du tonnerre. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens souffrent. On souffre d'information. Parce que l'information devient un bien privé aujourd'hui. Les gens ne sont pas bien informés. Alors, messieurs, Donald, on part l'émission, en fait, commence Donald. Vas-y.
Je commence en disant merci beaucoup, Pierre Jasmin, d'être là avec nous aujourd'hui. On attend beaucoup de tes antennes pour nous expliquer, depuis deux semaines qu'on ne s'est pas vu, que tu nous apportes. J'étais en train de lire justement tantôt, avant que je rentre en onde avec Claude Morin puis Ishmael. J'ai lu tous les textes que tu as envoyés, je regardais tout ça. J'ai bien hâte d'entendre les explications que tu en fais, Pierre, pour tout ça. De même avec Claude Morin, qui est quand même un grand spécialiste, qui a enseigné longtemps à l'Université de Montréal, finalement. Un collègue, Pierre, tu as enseigné longtemps à l'UQAM, et lui a enseigné longtemps à l'Université de Montréal. Puis Claude est un spécialiste, surtout du Chili, mais aussi d'un peu l'ensemble de l'Amérique latine. Puis là, avec la guerre en Corée, il semble que M. Biden a envoyé des gens du gouvernement américain pour aller à Caracas pour demander peut-être du pétrole. Parce qu'il paraît que les Américains, même s'ils ne dépendent pas trop de la pétrole qui vient de la Russie, ils sont pas prêts d'aller dans leurs réserves non plus. Ça veut dire qu'ils en ont besoin. Puis surtout avec les prix de pétrole qui ont augmenté aux États-Unis à la pompe, les Américains crient contre Biden. Les sondages de M. Biden ont baissé, il est rendu à 33 %. Il a baissé. Là, deux, trois semaines, il est à 40 %, là, il est rendu à 33 %. Fait que là, lui, ça va chercher du pétrole vénézuélien pour pouvoir finalement l'affiner ici aux États-Unis pour faire baisser les prix. Moi, je vais faire juste une petite farce, puis après ça, je vais donner la parole à Claude, puis à Ishmael, puis à toi. Si les Vénézuéliens négocient avec des envoyés de M. Biden, la première chose qu'il doit demander aux États-Unis, c'est de briser l'embargo sur Cuba. Sinon, il ne recevra pas un baril de l'huile. C'est-tu clair, ça? En partant, c'est ça que je dirais, moi. La première chose que je dirais. Et sur ça, je donne la parole à Ishmael.
Alors, commençons. Et parce qu'on est là pour les deux heures. Ils ont dit les deux, ils vont rester pour les deux heures de temps. Est-ce qu'on commence avec Pierre pour nous parler de textes écrits? Parce que Pierre, lui, c'est les artistes pour la paix. Donc, il a écrit pas mal de textes. On a reçu pas mal de textes de Pierre. Pierre, fais-nous un petit résumé de tes textes, en grosso modo, pour nous dire pourquoi, en ce moment, on est en guerre. Les bombes pleuvent. Toi et ton groupe, on envoie des textes qui prônent la paix. Est-ce que parce que tu penses que les gens ne veulent pas la guerre, ou du moins, est-ce que tu es en déphasage par rapport au reste de la population mondiale? Je ne sais pas. Explique-nous, Pierre.
Oui. Écoutez, je pense que vous mettez la table à une émission de professeur. Les gens vont fuir l'émission. Parce qu'on peut donner les bonnes nouvelles. Le Chili qui vient d'élire un gouvernement socialiste après 50 ans de gouvernement influencé par Pinochet. Il faut absolument... Non, je pense qu'on a des informations où la paix avance malgré ce que nos télévisions officielles nous offrent. Alors, oui, écoutez, première chose à propos de la guerre en Ukraine, il y a une grosse affirmation première, c'est que la neutralité et la démilitarisation de l'Ukraine sont la seule avenue viable, selon l'Américain Ted Carpenter de l'Institut Cato. Et il transmet aussi les conseils à Zelensky, qui sont publiés maintenant au journal des Hindou, et que j'ai envoyé à l'autre journal qui a fait un article cet après-midi là-dessus, de l'ancien président de l'Afghanistan, l'incompétent Hamid Karzai. Mais là, il prouve qu'il a une lueur d'intelligence formidable. Il conseille à l'Ukraine, ne laissez pas les grandes puissances faire leur guerre par procuration sur votre territoire, comme elles l'ont fait chez nous. Et pendant 43 ans, puisqu'il faut se souvenir que les guerres en Afghanistan, ça a commencé en 79 avec les troupes soviétiques de Brezhnev. Et donc, pendant ce temps-là, bien sûr, les États-Unis de Biden, de Trump, le Canada, Trudeau continuent de provoquer la Russie via l'OTAN, qui est une association militariste vraiment qu'il faut arrêter. Il y a une très belle opinion de Jacques Lévesque, qui est le grand spécialiste, professeur en sciences politiques de l'UQAM, émérite, professeur émérite, et spécialiste de la Russie. Et aujourd'hui, il en est réduit à, bien sûr, publier son fabuleux article dans l'autre journal, parce qu'évidemment, la presse, le devoir sont tous sourds à la paix. Et lui dit vraiment ce qu'il faut dire. Et même chose, finalement, il y a quand même Frédéric Mérand, que je suis sûr que mon collègue Claude connaît bien, qui est le directeur scientifique du CERIUM, c'est-à-dire le Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal. Et il m'écrit vraiment très collégialement que les artistes pour la paix ont raison de rêver à la paix, de faire en sorte que la paix soit l'horizon de tout le monde et que ça, au lieu d'être misérabiliste comme nos journaux et nos nouvelles sont, avec bien sûr des bombardements à ne plus finir. Et finalement, un dernier texte, si vous me permettez, mais ça, je voudrais le lire en entier, si c'est possible. C'est celui de Noam Chomsky.
On le fera après. Pierre, on le fera après parce qu'on a deux heures d'émission pour ça. Alors, okay. Claude, tu es là dès le début. Oui. Alors, Claude, et aujourd'hui, l'Amérique latine, qui n'est pas en guerre depuis un certain temps, d'ailleurs, les dirigeants, les nouveaux dirigeants avec de nouveaux esprits, c'est-à-dire, on fait tous les efforts pour que l'Amérique latine ne soit pas en guerre. Malgré tout, on sait des déstabilisations en fait, mises en place par les États-Unis dans cette zone, mais les gens résistent malgré tout. Pourquoi ? Quel est le point de vue, d'après toi ? Toi qui voyages virtuellement souvent en Amérique latine, quel est le point de vue là-bas ? Quelle est ton impression ? Qu'est-ce que ces gens-là, surtout les dirigeants progressistes, je ne parle pas des gens qui sont à la traîne des États-Unis, bien entendu, entre autres en Colombie et ailleurs, mais je parle des gens progressistes qui sont au pouvoir en Amérique latine. Quels sont les points de vue?
Ben, moi qui lis les journaux latino-américains, notamment ceux de l'Argentine, le Partido Nacional, pour nommer le plus intéressant des quotidiens qui paraissent dans le Sud, je constate qu'il y a vraiment une attitude équilibrée en ce sens qu'on y publie aussi des articles qui expliquent le chemin vers cet affrontement. Et cela est tout à fait différent de ce qu'on peut trouver dans nos journaux, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. On ne trouve que dans les journaux, disons, qui ne sont pas mainstream. Alors, en Amérique latine, il y a quand même des pays qui se sont abstenus lors du vote à l'Assemblée générale des Nations unies. Cuba, ça se comprenait. Le Nicaragua aussi. Venezuela n'a pas pu voter parce qu'il n'avait pas, il était en dette avec l'ONU, n'ayant pas payé sa cotisation pour des raisons financières. Donc, mais il s'est solidarisé avec la Russie. Ça ne l'empêchera pas de livrer du pétrole si les États-Unis en arrivent à des arrangements pour lever la principale sanction qui concerne justement PDVSA, qui est la compagnie pétrolière d'État du Venezuela. Pour le cas des autres, comme que ce soit la Bolivie, le Pérou, aussi le Mexique qui s'est prononcé qu'il n'appliquerait pas les sanctions parce qu'il veut être ouvert aux deux parties. Et par conséquent, le Mexique se retire complètement d'un alignement sur l'OTAN et un alignement sur la politique des sanctions. La même chose, dans le cas contraire, tu as cité la Colombie. La Colombie, elle, est alignée à 100% derrière les États-Unis, devenant même un partenaire globale de l'OTAN. Partenaire non membre de l'OTAN, mais qui est associé à l'OTAN depuis quelque temps, depuis 2019, et par conséquent, il va à fond de train avec la politique des sanctions. L'autre pays qui est un peu surprenant, c'est le Brésil de Bolsonaro. Quelques semaines avant que le conflit n'éclate avec l'entrée des troupes russes en Ukraine, Bolsonaro a rencontré Poutine et il est intéressé à des relations commerciales avec la Russie. Jusqu'à présent, il fait un peu bande à part dans cette Amérique latine qui était alignée à fond de train derrière Washington. Et son grand déplaisir sûrement de Biden, parce qu'il y a aussi un différend avec Biden. Et c'est aussi le cas du Salvador. Le Salvador, Bekele, qui est un président vraiment glissant vers l'autoritarisme, ben, il ne veut pas suivre Biden dans ce combat, parce qu'il a été réprimandé par les États-Unis. Et du même coup, il veut garder une certaine position de neutralité. Alors, on a un peu cette situation au niveau des gouvernements. Bien sûr que les gouvernements ont déploré, ont dénoncé la guerre. Ça va de soi. Par contre, ils n'emboîtent pas le pas dans cette campagne qui vise, à travers les sanctions, à affaiblir et même à la Russie, et même, on espère, certains stratèges qui sont derrière ces sanctions, faire tomber Poutine.
Alors, messieurs, parce que je vous donne une petite blague, juste quelques secondes pour ça. Je me rappelle, il y a un pays qui s'appelle Haïti. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, et qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Et il y avait un certain Vaisseau qui était au pouvoir, mais Vaisseau cherchait partout pour voir où se trouvait Haïti, il ne pouvait pas. C'est pour montrer comment ces gens-là, par exemple, c'est faire référence à la Colombie, qui est derrière les États-Unis à 100%. Mais on sait que la Colombie, qui est au pouvoir, comment ces gens-là, ce sont des réactionnaires, ce sont des tortionnaires aussi, parce qu'on découvre ce qu'on appelle des troupes béants, des individus tués et par les paramilitaires et les militaires en Colombie. Donc, ça n'étonne pas qu'on voit ça. Mais, et Donald, Bolsonaro qui s'est retenu un peu, c'est vrai, et le Brésil, c'est un grand pays de l'Amérique latine, c'est le plus grand pays de l'Amérique latine qui a ses intérêts, bien entendu. Mais est-ce que c'est pas parce que le Brésil fait partie du BRICS? Alors là, et Bolsonaro, et ça lui permet de garder quand même une petite gêne, hein, comme on dit souvent au Québec, Donald.
Oh, absolument, c'est exactement ça. C'est ça que tu n'as pas répondu aussi. Puis je vois Claude en train de hocher la tête. Je suis convaincu que Pierre Jasmin a fait la même chose. Oui, c'est le BRICS, exactement. D'ailleurs, le premier pays dans le BRICS, c'est Brésil, B. Et donc, il est là.
Et il est aussi. Là aussi avec l'Inde, parce que l'Inde a aussi obtenu aussi.
C'est obtenu aussi, c'est l'Inde aussi. Donc, et l'autre
et aspect aussi. L'Afrique du Sud aussi. Donc, les partenaires de la Russie dans le BRICS se sont
abstenus. Et les partenaires de la Russie et de la Chine aussi, que oui. C'est lui qui a monté l'affaire du BRICS. Ça veut dire que c'est l'intervention de la Chine sur le plan d'être peut-être éventuellement le réconciliateur entre l'Ukraine et la Russie aussi. Et c'est pas pour rien, on va en parler tantôt, pourquoi que Biden a parlé pendant 2 heures vidéoconférence avec Xi Jinping. Mais l'autre aspect aussi, puis il faut le dire, Donald Trump a toujours été, on peut dire, proche de Poutine. Pourquoi? Parce que Donald Trump avait une conception de la gouvernance, qui est pour lui, c'était l'autoritarisme. J'ai raison, tout le monde a tort. Puis, à quelque part, il regardait Poutine puis trouvait que c'était quelqu'un avec qui il pouvait avoir une admiration. C'était la même chose avec Bolsonaro. Bolsonaro aussi, autoritariste, certains disent même proche du néo-fascisme, néanmoins, avait aussi dans sa vision que Poutine ressemblait à des leaders forts, des leaders pour amener son pays, un peu comme Bolsonaro et un peu comme Donald Trump aussi. Donc, il y a ça qui a joué aussi, effectivement. Puis, bon, on verra ce que ça va donner tout ça, mais c'est clair que M. Bolsonaro essaye de, finalement de se tenir loin de M. Biden aussi. Ça, c'est l'autre aspect aussi, parce qu'il sait que Biden essaye de mettre des pressions sur Bolsonaro. Il est en train de, peut-être, il n'aura pas le choix de soutenir Lula, si c'est Lula qui devient le candidat. Donc, puis dans les faits, ce serait une contradiction pour Joe Biden, parce que Joe Biden, il n'est pas de gauche, il n'est pas plus de gauche que le pape. Même, je pense que le pape, il est plus à gauche que Joe Biden. Donc, vous voyez, à quelque part, Biden, là, il a ouvert une canne de verre, puis c'est lui qui va tomber dans la canne de verre. Et évidemment, il s'est donné des contradictions partout, puis pour moi, on va voir dans quelques mois, puis même avant, comment Biden va se trouver non seulement isolé de plus en plus, mais qu'il va se trouver que finalement, les bonnes sanctions qu'il a mis un peu partout dans le monde sont en train de ruiner les États-Unis aussi. Donc, tout ça fait que c'est assez curieux de voir. Moi, qu'est-ce que je retire de tout ça sur le plan international, c'est que ça démontre une chose, puis ça, c'est M. Biden n'a rien compris de ça, que le continent du 21e siècle et du 22e siècle, selon moi, c'est l'Asie. C'est l'Asie avec tout ce que comporte l'Asie. Puis il ne faut jamais oublier, trois quarts, si ce n'est pas deux tiers, de la Russie est où?
En Asie.
Donc, veut pas, M. Poutine a peut-être un œil et la moitié de l'autre regardant l'Asie. Mm-hmm. Il y a l'Inde, le Pakistan, puis il y a une relation avec l'Iran qui est en Asie.
Okay.
Donc, vous voyez, M. Biden, dans les faits, devient de plus en plus sur la scène internationale, et puis surtout avec la force que développe l'Asie, il devient de plus en plus minoritaire.
En effet. Alors, Pierre, parce que je viens avec toi, Pierre, parce qu'on entend souvent, et par la culture, les Occidentaux essaient de coloniser les autres pays par la culture, et en particulier les États-Unis. C'est ce qu'ils font un peu partout à travers le monde. Et souvent, on voit les artistes occidentaux, c'est-à-dire en avance, c'est-à-dire qui prônent l'idée même des Occidentaux à travers la démocratie. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, Pierre, que la plupart des artistes occidentaux, d'après ce que j'ai lu, j'ai pu voir, embarquent dans la propagande occidentale, c'est-à-dire sans qu'ils mettent de l'avant ce qu'ils savent faire, prêcher l'amour, la paix, ou du moins faire en sorte qu'on n'ait pas de guerre. Qu'est-ce qui explique ça aujourd'hui, Pierre?
Ben, tu sais que les artistes ont jamais été réputés pour un esprit de discipline militaire en partant. Je veux dire, si tu regardes tous les grands chansonniers des années 50 en France et au Québec, on était tous anti-militaristes, anti-guerre au Vietnam et tout ça. Juste une seconde avant d'aller en Asie, comme notre ami Donald nous y invite, je voudrais juste terminer peut-être avec le continent sud-américain et rappeler le désastre de la politique de Trudeau avec le groupe de Lima, et dont Yves Engler a très bien dit que le nouveau régime au Pérou a dit que c'était la pire erreur que de leur gouvernement en 50 ans en politique extérieure, c'est d'avoir créé ce groupe de Lima qui était bien sûr une création faite surtout avec la Colombie, dont tu as bien expliqué le côté despote et tyrannique. Pro-OTAN, ce qui est ridicule parce que la Colombie est située dans un continent qui fait partie de ces zones libres d'armement nucléaire où il est interdit d'entrer une seule arme nucléaire ce qui fait que la Colombie peut vraiment pas accueillir l'OTAN, même si leur gouvernement fasciste essaie de persuader les habitants de le faire. Alors, donc tout ça, le groupe de Lima, qui a été créé simplement pour essayer d'envahir le Venezuela, c'est un désastre, ce n'est plus viable, et n'en parle plus vraiment. Alors voilà, donc tu veux qu'on s'en aille vers l'Asie? Non, tu veux qu'on s'en aille vers la liberté des artistes?
Non, non, mais parce que le temps de la pause va arriver bientôt. Je ne voudrais pas t'arrêter en cours de route pendant que tu entames un nouveau sujet. Mais par contre, si tu veux, on a quelques 30 secondes avant le temps de la pause. Juste brosser un petit peu comment tu vois les choses en Asie, un petit peu. Après, tu reviendras là-dessus, quoi.
Oui. Écoutez, moi, j'ai un regard vraiment très spécial pour l'Asie. J'ai été 9 ans avec une compagne chinoise. Donc, ça m'a ouvert l'esprit à la mentalité de ce peuple incroyable. Hein. C'est un continent en soi, la Chine. C'est pas pour rien. Il s'appelle l'Empire du Milieu. Ils envahissent personne. Bon, bien sûr qu'ils regardent Taïwan comme une de leurs possessions, ce qui est inquiétant. Mais ils envahissent personne.
Alors, Pierre, je t'arrête. C'est le temps de la pause.
Je finis.
C'est le temps de la pause.
Ils ont une base militaire à Djibouti. Les Américains ont plus de 700 bases militaires à travers le monde. Je veux dire, il ne faut pas comparer.
Freine-toi, Pierre, tu reviens là-dessus tout à l'heure. Tu reviens là-dessus.
Oui, à propos d'artistes, par exemple, ce qui est très rigolo, on a un membre honoraire des artistes pour la paix, parce que c'est un... En plus d'avoir été professeur en sciences sociales à l'UQAM, il est aussi un peintre, et c'est aussi un poète qui livre un poème chaque jour sur le site des artistes pour la paix, et qui a rapport à la guerre qui est en cours, parce que comme nous, comme artistes pour la paix, c'est évident que c'est le sujet qui nous préoccupe le plus. Mais je veux parler d'André, parce que André Jacob, parce que c'est son nom, parce qu'il a fait, il a habilement écrit un article sur, vous vous souvenez de ce pianiste russe qui a été cancellé par l'OSM, alors qu'il devait jouer avec l'OSM il y a une semaine et demie. Et il a écrit un article pour s'indigner de cette censure, parce que c'est un jeune pianiste d'une petite vingtaine qui avait écrit des choses comme sur la paix qui était tout à fait attendrissante. C'est pas du tout un complice de qui que ce soit politique. Et il a écrit son article et surprise, Le Devoir l'a publié. Et le critique du Devoir, le lendemain, il a dit, nous a révélé, dans le fond, dans son article, qu'il s'était trouvé 2700 personnes pour avoir exprimé leur avis sur cette décision hostile de l'Orchestre symphonique de Montréal d'avoir cancellé ce jeune musicien. Et 1600 pour la commenter, sans compter les avis et commentaires résultant de 235 partages. Ils étaient plus de 1800 sur 2700 à lui cracher dessus, c'est-à-dire cracher dessus sur l'OSM. Mais le critique feint de comprendre que si tant de personnes se sont exprimées dans le réseau électronique du Devoir pour appuyer André Jacob, c'était parce que c'était à peu près le seul article qu'ils ont publié depuis les deux semaines de guerre, où le seul article qui avait une fenêtre ouverte où la censure du Devoir s'est relâchée à propos de la guerre en Ukraine et a arrêté sa propagande ridicule qu'ils maintiennent depuis deux semaines. Donc vous voyez que quand les gens trouvent une fenêtre dans cet esprit de censure, ils s'y engouffrent parce que c'est vraiment... Alors je les invite plutôt d'aller directement sur notre site des Artistes pour la paix. Ils vont trouver toutes sortes d'articles où, par exemple, j'annonce le ballet Roméo et Juliette qui va être vraiment présenté à la Place des Arts du 23 au 27 mars par les Grands Ballets canadiens. Et c'est une œuvre extraordinairement anti-guerre et pour l'amour qui vint toutes les guerres, même quand les amants sont de deux nations différentes. Alors, voilà, c'est mon petit message. Ah, autre message aussi.
Juste une information sur la question. Moi, j'avais entendu dire que les musiciens de leur
l'Orchestre symphonique de Montréal ont appuyé le jeune homme.
Oui, tout à fait. Ben oui, parce qu'ils ont travaillé, ils ont eu l'occasion de travailler avec lui. Ils ont déjà créé des liens. Alors, je ne sais pas, j'ai écrit à Madeleine Caro, qui est l'administratrice en chef, mais elle ne m'a pas encore répondu. J'ai écrit il y a 3 jours. Alors, j'espère que on a l'habitude quand même de converser. Enfin, on l'a déjà fait dans le passé. Et j'espère qu'elle va sortir de sa torpeur bureaucratique.
Mais est-ce que c'est pas, pour utiliser un langage québécois, messieurs, parce que nous sommes au Québec, nous sommes des Québécois, est-ce que c'est pas dégueulasse, messieurs, qu'on voit ce genre de choses ici, à savoir que des jeunes artistes, des jeunes personnes qui n'ont rien à voir avec la guerre, seulement parce qu'ils ont une source russophone, ils sont peut-être d'origine, un lien avec la Russie, on bannit ces gens-là. Imaginez, vous vous rappelez, messieurs, les Paralympiques, les gens qui déjà subissent, hein, et c'est-à-dire en étant paralympique et en étant paralysé parfois, en ayant des problèmes. Et ces gens-là, justement parce qu'ils sont d'origine russe, on les prive de ce qu'ils peuvent avoir comme plaisir. On
leur prive ça. Comme fenêtre sur le monde.
Exactement. Oui. Est-ce que c'est pas, messieurs, est-ce que c'est pas inacceptable dans nos sociétés d'aujourd'hui que les gens agissent comme ça, qu'on met tout le monde dans le même panier, à savoir, je comprends qu'on veuille bien sacrifier ou du moins et en fait dire n'importe quoi de Poutine, c'est le cadet de mes soucis. Mais par contre, ces gens-là qui n'ont rien à voir dans ce qui se passe et que on voit des gens les appuient, il y a même pression au niveau des dirigeants et sportifs pour exclure des gens. Comment vous voyez ça, messieurs? Est-ce que ça vous tique pas? Est-ce que ça vous interpelle pas?
Oui, mais écoute, pour ma part, c'est sûr qu'on voit ça beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde artistique présentement. Par contre, on laisse jouer Romanov, qui est un excellent joueur de hockey, un de mes favoris pour le Canadien de Montréal, un défenseur très vigoureux. Et lui, on ne l'inquiète pas. Donc non, c'est une censure qui est hypocrite et qui est dirigée, je pense, beaucoup vers les artistes. Mais peut-être que vous allez me dire que j'ai un esprit paranoïaque étant artiste moi-même. J'aimerais t'entendre là-dessus, Donald ou Claude.
Oui. Mais moi, la seule chose que j'ai entendue, j'ai suivi, comme toi, Pierre, comme toi, Claude, ce qui s'est passé à la radio. Mais moi, j'ai entendu aussi une entrevue avec Lise Bissonnette, qui a répondu d'une façon très claire.
Oui, elle a bien fait, oui.
Enragée, mais enragée aussi contre le speaker de Radio-Canada, etc., etc. Elle a dit, ça veut-tu dire qu'on va falloir de bannir les livres dans nos bibliothèques du grand auteur Dostoïevski? Imaginez-vous, là. On est rendu là.
Ben oui, l'Université de Milan a cancellé un cours sur Dostoïevski. On sait bien que Dostoïevski, c'est le philosophe préféré de Poutine, croyez-vous? Non, c'est inimaginable. On va revenir à l'époque de nos policiers en 70 qui arrêtaient les gens parce qu'ils avaient des livres sur le cubisme dans leur bibliothèque. C'est l'ignorance au pouvoir quand c'est l'extrême droite.
Oui, Claude.
Oui, on verse facilement dans la culture du bannissement et la guerre Russie-Ukraine favorise ça, surtout qu'on a un climat qui s'y prête, je pense aux États-Unis, où on bannit des livres dans les bibliothèques. Il y a des livres qu'on sort des bibliothèques pour différentes raisons. Et là, on a justement parlant de Dostoïevski, l'Université de Milan qui avait annulé un cours de 4 séances qui devait se donner sur Dostoïevski par un professeur de littérature. Et il y a eu tellement de résistance que l'université a dû réinstaller le cours. Ça, c'est des aberrations qui nous font confondre une culture avec un événement ou un processus très dramatique comme une guerre. Et on perd tout discernement. C'est ce que je peux discerner. Je ne comprends pas du tout l'OSM d'être tombé dans ce travers et dans cet excès d'avoir a pu frapper quelqu'un, un jeune, qui avait déjà fait pris une position pacifiste face au conflit. Et on l'a, parce qu'il était russe, on l'a exclu d'un programme. Donc, ça montre à quel point on peut être unilatéral dans la vision que l'on a de l'événement international, par partie, sans aucune distanciation. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on ne revient pas aux causes de cette guerre. On voit la guerre et on s'attaque immédiatement à celui qui l'amène sans comprendre qu'est-ce qui a mené à cette guerre, quelles sont les responsabilités de l'Occident, des États-Unis en tout premier lieu, de l'OTAN, de l'Union européenne, y compris même de l'Ukraine, parce que c'est quand même l'Ukraine qui a pris la position d'interdire le russe à l'école, dans les médias, à partir de Maïdan en 2014.
Alors,
cela a contribué à mettre au coude et à provoquer les séparatistes qui sont allés vers une position de combat, et on sait ce qui se passe du côté de l'Ukraine entre 2015 et aujourd'hui, jusqu'à l'éclatement de ce conflit direct avec le débarquement des troupes russes en territoire ukrainien.
Alors, ben, Claude, justement, approfondissons la chose, parce que on a des professeurs avec nous, mais bien entendu, vous savez, messieurs, ici, les gens ne sont pas, c'est-à-dire, au rendez-vous au niveau de la recherche. C'est-à-dire, premièrement, on décourage les gens de savoir les causes, parce que ce que tu as dit là, Claude, c'est important. Tu as dit, d'abord, pour expliquer tout événement, il faut d'abord comprendre les causes. Il faut savoir tout ça. Allons-y, messieurs, parce que c'est le moment pour le faire.
Mais je ne reviendrai pas là-dessus de suite, mon chemin. Moi, je veux savoir de Claude, comment est-ce qu'il voit cette contradiction-là au niveau de, finalement, d'arrêter le monde, finalement, d'empêcher de produire des écrivains et tout ça, parce que sont de tendance russe. En même temps, de l'autre côté, M. Biden tend la main au Venezuela, hein, qui est une sorte de contradiction aussi, il faut le dire. Donc, comment est-ce que tu vois ça?
Ben, d'abord, il faut rappeler que les États-Unis sont embarqués depuis 20 ans dans un combat contre le Venezuela Chavez, et depuis 7 ans, c'est à coup de sanctions qu'ils pensent pouvoir changer le gouvernement à Caracas. Et voilà, pour faire une histoire courte, que les sanctions qui n'ont abouti à aucun résultat concret, en ce sens que la finalité n'a pas été atteinte, c'est-à-dire la chute de Maduro, tout ce que ces sanctions ont fait, c'est qu'ils ont tué au Venezuela des gens parce que les gens ont été affamés. Ils ont connu la COVID, ils ont eu de la difficulté à se faire soigner, à obtenir les médicaments, parce qu'il y avait des sanctions qui visaient justement à affamer la population et à rendre plus difficile l'acquisition de médicaments et de vaccins, parce que l'argent qu'avait le Venezuela était bloqué, comme vous avez rappelé, comme Donald rappelait, l'argent que le plus d'un milliard de dollars de livres que le Venezuela avait à la Banque de Londres ont été gelés. La compagnie de pétrole filiale de PDVSA, Citgo aux États-Unis, a été saisie, et le pétrole vénézuélien qui venait pour environ 500 000 barils par jour a cessé d'être importé aux États-Unis. Tout ça, pas parce que les États-Unis n'avaient pas besoin de ce pétrole, ils ont dû se tourner vers d'autres sources, mais parce qu'ils voulaient sanctionner, punir le Venezuela et entraîner la chute du gouvernement Maduro. Or, cela a complètement raté, puisque Maduro était plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 3 ans. Les sanctions n'ont donc donné aucun résultat, si ce n'est que de faire bâtir la population et d'entraîner. On a calculé qu'il y avait peut-être eu 40 000 décès suite à à l'effet qu'ont eu ces sanctions au Venezuela. Or, on arrive maintenant à un événement récent. Le gouvernement, la Maison-Blanche envoie des émissaires rencontrer Maduro au palais de Miraflores alors qu'il ne le reconnaissait pas il y a un an et demi et qu'il promouvait un gouvernement parallèle dirigé par un inconnu, Juan Guaido, qui aujourd'hui est complètement lâché, même par ceux qui étaient ses alliés dans l'opposition en 2019. Et donc, qu'est-ce que recherchent les États-Unis? Le résultat, je pense que qu'il souhaitait, c'est d'avoir accès au pétrole vénézuélien. Mais ça a suscité tellement d'émoi aux États-Unis, surtout auprès des républicains. Il y a eu une levée de bouclier face à cette rencontre parce qu'on veut continuer de faire pression sur le gouvernement vénézuélien. On ne veut surtout pas acheter son pétrole parce que ça signifierait que des années de sanctions seraient abandonnées et que le Venezuela pourrait obtenir des devises pour le pétrole qu'il livrerait aux États-Unis. Mais ça montre que le gouvernement des États-Unis change facilement sa politique quand il s'aperçoit qu'il faut qu'il la change. Les sanctions étaient la méthode. Aujourd'hui, les sanctions pourraient être abandonnées, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain parce qu'il y a une résistance des deux côtés de la Chambre, démocrates comme républicains, pour abandonner cette politique des sanctions. Alors, je ne sais pas trop. Mais symboliquement, c'est quand même important que des émissaires aient été présents au palais de Miraflores et rencontré Maduro. Ils n'ont obtenu, selon toute vraisemblance, que la libération de deux prisonniers, dont l'un était cadre de la compagnie pétrolière et qui était accusé de malversation, et l'autre, c'était un mercenaire qui a fait une tentative qui est intervenu depuis la Colombie au Venezuela.
Mais Claude, Claude, parlons-en parce qu'on est au Venezuela, restons-y, c'est vrai, on va revenir, mais qu'en est-il du représentant de Venezuela qu'on a kidnappé au Cap-Vert, que les États-Unis ont forcé la main aux Cap-Verdiens de kidnapper, alors que s'il y a négociation, c'est-à-dire si on a pu libérer deux États-Unis, pourquoi le gouvernement vénézuélien n'a pas demandé en fait qu'on fasse cet échange, dans la mesure où ce représentant vénézuélien qui allait chercher, c'est-à-dire des ententes, signer des ententes, des accords avec l'Iran et d'autres pays pour le Venezuela, alors qu'il est encore en prison, kidnappé par les Cap-Verdiens et sous les beaux soins des États-Unis.
Oui, il faut rappeler que Alex Saab, qui était ce diplomate d'origine colombienne, qui était envoyé par Maduro pour obtenir des aliments et des médicaments pour la population vénézuélienne, a été arrêté lors d'une escale technique à Rocafort en juin 2020 et détenu pendant plus d'un an sans procès. Puis finalement, même s'il n'y avait aucun accord d'extradition du Cap-Vert vers les États-Unis ont envoyé une équipe qui a séquestré Alex Saab et qui l'ont ramené aux États-Unis. Il est maintenant emprisonné au Texas et il attend son procès. Alors, comme tu le rappelais, je pense qu'il y a un échange qui aurait pu être fait, mais ça n'a pas fait du tout. Ça n'a pas été mentionné du tout par les sources vénézuéliennes ni par les États-Unis. La possibilité que Alex Saab puisse être libéré, mais c'était quand même important parce que c'est cet enlèvement d'Alex Saab qui a lui suspendu les négociations, qui avait lieu au Mexique, sous l'égide de la Norvège et du Mexique, entre l'opposition et le gouvernement Chavez au mois d'octobre. Donc, les élections ont eu lieu au mois de novembre, donc ça n'a pas changé ce qui était déjà programmé, mais pour l'avenir, il y avait tout un ensemble de questions qui faisaient partie du programme de rapprochement entre l'opposition qui accepte de jouer le jeu institutionnel, de participer à des élections, mais qui abandonne la sortie insurrectionnelle et encore plus la sortie de l'invasion qui était demandée par Guaido. Guaido demandait une intervention même militaire des États-Unis au Venezuela pour renverser Maduro. Alors ça, il est complètement usé. Et même si officiellement les États-Unis continuent d'appuyer ce qu'ils appellent le gouvernement intérimaire, dans les faits, il est lâché. Parce que ça ne mène nulle part, que l'opposition a accepté, du moins ceux qui les modérés ont accepté de participer aux élections de novembre dernier, et ils ont maintenant comme calendrier les élections présidentielles qui auront lieu en 2024. Ils veulent améliorer leurs chances d'obtenir la présidence. Alors que Maduro sera candidat sans doute pour une réélection, mais il y aura à faire face à une opposition.
Avant qu'on arrive à la pause, il y a juste une leçon que je pense que dans le cas, finalement, tel que décrit par Pierre par rapport à la guerre en Irak, et toi, Claude, par rapport à la question, les États-Unis veulent faire avec le Venezuela pour aller chercher le pétrole, ça montre l'hypocrisie de ce président-là, le président des États-Unis. C'est un hypocrite par rapport à ce que l'Ukraine, la Russie, c'est le vote en guerre, il est prêt à prolonger cette guerre-là aussi longtemps qu'il peut gagner son élection de 2022. Puis de l'autre côté, après 20 ans d'essayer de faire mourir le peuple vénézuélien, effectivement, puis même soutenu du monde qui était des extrémistes de droite avec une invasion militaire. Là, aujourd'hui, il retourne comme un grand hypocrite. J'ai besoin de votre pétrole. Donc, est-ce qu'on peut effectivement voir dans cet homme-là qu'on ne peut pas avoir confiance de cet homme-là comme président des États-Unis?
C'est toutes les contradictions, dans le fond, de ces positions de ces pseudo-pouvoirs qui se disent démocratiques, mais qui sont contre l'ONU et qui sont pour l'OTAN. Et je veux dire, regardez même, quand on parlait de l'OSM, qui est une institution remarquable chez nous à Montréal, et ils ont nommé, l'OSM a-t-elle nommé comme chef, nouveau chef et comme directeur musical, un Vénézuélien qui a à peine 42 ans, Rafael Payar, et qui a programmé pour son premier concert plus tard dans la saison, en avril, je pense, un concert dans lequel il invite un extraordinaire pianiste russe qui est élève d'un de mes amis russes au pianiste, Daniel Trifonov, pour jouer deux concertos russes. Schnittke, compositeur plus contemporain, et Prokofiev, bien sûr, qui est inévitable. Alors, qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, il faudrait que l'intelligence ou le manque de fanatisme réussisse à triompher chez nous. Et ça va arriver quand on aura pu cette espèce de fixation de régler les choses militairement partout dans le monde et dans lequel le Canada depuis quelques années est hélas complice avec Harper et avec Justin Trudeau. Et il faut vraiment essayer de convaincre les gens raisonnables de revenir à un point de vue que je dirais civilisé. Voilà.
Mais messieurs, je vois que vous n'insistez pas assez sur le comportement du Canada. Pierre a cité Trudeau à deux reprises, mais moi, souvent, on sait que le Canada intervient un peu partout. D'ailleurs, le Canada joue un rôle de sous-traitant pour les États-Unis dans plein de choses que les États-Unis ne peuvent plus faire à travers le monde. Et depuis l'avènement de Trudeau au pouvoir, que ce soit sous le gouvernement de Trump ou le gouvernement de Biden, je ne vois pas la politique claire du Canada à une politique. Il me semble qu'on suit aveuglément ce que les États-Unis disent. Ça, c'est pour après la pause. C'est le temps de la pause. D'accord?